Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lilian Var, réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Marie Dalquier. Nous poursuivons ce dimanche notre discussion avec Denise Desjardins à Hauteville. Denise Desjardins nous a parlé de ses rencontres en Inde, notamment avec Mananda Mayi et Swami Prajnanpad. Et nous allons aujourd'hui poursuivre cet entretien autour de ses pratiques spirituelles et notamment du fameux laying.
Je suis restée avec Mananda Mayi et je l'ai suivie, pas toujours confortablement, mais toujours avec beaucoup de, disons, d'amour pour elle et d'intérêt pour ce qu'elle pouvait être plutôt que ce qu'elle pouvait dire.
Vous avez senti que, à votre tour, le moment était venu aussi de transmettre cet amour, cet enseignement que vous aviez reçu. À quel moment vous vous êtes sentie prête pour devenir vous-même transmetteur ?
Toutes les façons, Swamiji était mort, et c'était pour moi une grande tristesse, plus que ça, surtout quand il est parti. Vous savez qu'il avait passé 6 mois. Amour la reine, et que je l'avais servi du matin au soir. Donc, je ne peux pas dire que je me sois sentie moi-même prête, mais je vivais au premier ashram d'Arnaud, au Bost, et un jour, Arnaud m'a appelé. Il m'a dit, il y a quelqu'un là qui a visiblement quelque chose de plus que sa naissance, d'avant sa naissance. Je voudrais que tu t'en occupes. Voilà. Et j'ai pris cette personne tout de suite, avec des questions, un questionnement. Je l'ai fait travailler pendant 1 heure et demie. Et je n'ai prouvé aucune hésitation. Aucune difficulté, aucun scrupule. Je sentais que ça coulait comme si c'était presque ce que j'avais reçu de Swamiji, que je n'étais qu'une sorte de tuyau avec un robinet et que ça coulait vers cette personne. Je ne sais pas si c'est une très jolie image, mais je peux l'exprimer comme ça. Donc cette personne a répondu très honnêtement, avec beaucoup de sincérité. Et elle avait ceci de curieux, c'est que depuis son enfance, elle avait perdu l'odorat. Et que tout d'un coup, à la fin, quand j'ai arrêté au bout d'une heure et demie, elle s'est redressée, elle a fait « Mais je sens, ça y est, je sens. » Et pour moi, c'était extraordinaire, quelque chose de si rapide comme résultat. Mais ça m'a beaucoup encouragée. Bon, reconnaissons que j'ai de l'intuition, mais reconnaissons aussi que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris auprès de Swamiji, de sa façon dont il m'a fait travailler en laying et en entretien, bien sûr, mais que j'ai une bonne mémoire et que quand je me permets de, pas de donner un conseil, mais de suggérer quelque chose à quelqu'un qui me demande un avis ou un conseil, je suis sûre que quand je lui dis quelque chose, c'est que je sais que Swamiji m'avait dit quelque chose de semblable. Sans ça, je ne le fais pas. Donc ça me donne une sûreté, et beaucoup plus, vous savez, le rôle des mères, c'est de donner confiance à leur enfant. Moi, je n'avais pas eu ça. mais j'ai eu cette sorte d'assurance que ma mémoire ne pouvait pas me tromper quand je parlais de Swamiji.
À travers les cieux toujours changeants de mon existence, j'ai vécu d'expérience en expérience, de création en création, de cruelles défaites en états bienheureux, d'amour sans lendemain, en passions illusoires, au destin éphémère. Combien souvent ai-je été soumise au ressentiment, tenté sans succès d'y opposer l'impartialité, avant de pouvoir aller de la détestation à la compassion, et l'éprouver pour ceux et celles que j'avais jusque-là abhorré. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer de manière, peut-être pour nos auditeurs, de manière plus détaillée, en quoi ça consiste le lying, justement, cette méthode du lying ?
Méthode que vous avez pratiquée pendant près de 40 ans, si je ne me trompe.
Écoutez, j'avais 40 ans, et avant de tomber malade et d'échapper à la mort, j'avais encore du monde qui venait me voir. Est-ce que je peux vous dire comment ça s'est passé pour moi ?
Oui.
Parce que ça me paraît être la chose la plus honnête. Après, si ça ne vous suffit pas, je veux bien répondre. Eh bien, d'abord, la première fois que j'ai vu Swamiji, il m'a longuement questionné sur ma famille, ma place dans la frère et sœur, et ce que je ressentais, et énormément sur la peinture, sur ma façon d'être, sur mes goûts. Moi, je pensais égotiquement que c'était par intérêt pour moi. Mais en même temps, il faisait son diagnostic. Et il a vu au bout de plusieurs années qu'il y avait quelque chose qui m'empêchait dans mon évolution. Et un jour, je ne lui avais jamais dit, mais j'ai osé lui avouer, comme je lui disais presque tout, je lui ai presque tout dit, sauf l'expérience que j'avais eue auprès de Ananda Mahi. Mais ce que je lui ai dit, c'était quelque chose qui était mon grand souci, ma grande peur, c'est que j'avais peur de ma mère. Et que je ne comprenais pas pourquoi j'avais peur, mais que chaque fois, dans les groupes Gorgiev, j'avais appris à me détendre, à méditer, c'est pas le mot qu'on employait, à contempler, à être intériorisé. Et avant de... J'habitais Paris, n'habitais pas Paris. Avant de rejoindre ma mère, je me disais, cette fois-ci, tu n'auras pas peur. Et dès que je la voyais, la peur revenait. Donc j'ai finalement dit à Swamiji, il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise, c'est que j'ai, même maintenant, après tous les efforts que j'ai faits, dans les groupes, les mouvements, mes propres efforts en peinture et en contemplation, j'ai toujours peur de ma mère. Et ça, il a vu que c'était quelque chose qui freinait mon évolution. Et à Bourg-la-Reine, il m'a demandé deux choses. D'abord de pratiquer la non-dualité avec mon entourage, de me sentir en unité avec tous ceux que je rencontrais et mes propres, ce que j'appelais mes proches. Et il m'a demandé une autre chose, tous les matins, de faire une sorte de méditation particulière, visualisation, d'essayer de voir ma mère, surtout quand j'étais plus jeune. Et tous les jours, je venais lui avouer, soit je dis, je vois rien, je vois pas ma mère. Et je dis, ce qu'il y a de pire, c'est que je me sens éloignée, séparée de mes proches. Et un jour, j'ai quand même vu la silhouette de ma mère, et à la place de son visage, j'ai vu un blanc. Je ne pouvais pas voir son visage. Et malgré mes efforts, tous les jours, je venais avouer mes deux défaites à Swamiji. Je ne peux pas voir le visage de ma mère. Et je me sens séparée, même de mes proches, même de mes intimes. Et il a tout de suite compris qu'il y avait un traumatisme lié à la mère. Et un jour où je venais le voir pour un entretien, il m'a dit « Tirez les rideaux et allongez-vous sur le sol. » Il a commencé à m'interroger sur ma relation à ma mère. Et c'est là que j'ai retrouvé mes souvenirs d'enfance et que j'ai retrouvé presque tout de suite ce dont je vous ai parlé. L'incident, appelons ça comme ça, l'incident traumatisant. Je devais avoir à peu près un peu moins de 6 mois, entre 4 et 6 mois. Et je pleurais beaucoup. Et ça, c'était le dernier enfant qu'avait porté ma mère. Et elle a, disons, eu un geste pour me faire taire. Pour me faire taire, elle a serré ma gorge. Voilà. Je le sais parce que je suis née en février et que j'étais encore... vous savez qu'à ce moment-là, on serrait les bébés dans des couches, plus des choses très chaudes pour qu'ils n'aient pas froid, que j'étais ligotée ensemble. Donc, j'avouais cela. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé cette peur primordiale et qui venait de cet incident et que j'avais complètement oublié, mais qui était restée inscrite avec beaucoup de force dans mon inconscient, appelons ça comme ça, dans mon esprit. Et c'est ça qui me faisait rechercher toujours d'être reconnue pour remplacer ce choc qui avait interrompu l'amour que je ressentais et que me donnait ma mère pendant plusieurs mois. Parce que je sais qu'elle m'aimait et qu'elle m'a toujours aimée, mais elle a eu une défaillance, un moment de perte de contrôle. Donc, j'ai toujours essayé de suivre, c'est-à-dire de préparer quelqu'un qui devait venir travailler avec moi, en lui demandant de penser à son enfance et en lui demandant qui vous préférez, votre père ou votre mère. Alors, très souvent, on me disait « ma mère ». Eh bien, toutes les nuits, avant de vous endormir, vous allez penser à votre mère. Et alors, ça les mettait dans un état épouvantable. Ils venaient me le dire après, mais ça les préparait négativement, peut-être, mais ça prépare. Et la deuxième chose, c'était de toujours commencer par l'enfance. Toujours. Et je demandais, quel est votre plus ancien souvenir ? Quelquefois, on me disait, j'ai pas de souvenir avant 7 ans. Quelquefois, on me disait, je n'ai pas de souvenir avant 5 ans. D'autres fois, oh, j'ai aucun souvenir de ma petite enfance. C'est noir pour moi. Alors, je pensais qu'il y avait quelque chose qui avait bloqué là. Ça devenait des symptômes, vous voyez. Et pour moi, c'était une préparation de les préparer à penser à leur enfance. Mais curieusement, certains qui ont travaillé avec moi sont tout de suite passés à une vie antérieure, disons, appelons ça comme ça. Ils avaient des images qu'ils ne pouvaient en aucun cas attribuer à leur vie actuelle. Et moi, je m'efforçais de les ramener à l'enfance. Je disais, non, c'est trop tôt, l'enfance d'abord. Je voulais faire comme m'avait fait Swamiji avec moi. Quelquefois ça marchait, quelquefois ça marchait, pas du tout. Et que je perdais des heures à vouloir les ramener à l'enfance alors que ce n'était pas possible. Et que ça m'a ramené à un peu d'humilité. Je me suis dit, je ne peux pas décider pour eux comment aller vers leur inconscient. C'est une volonté de ma part, mais eux ne peuvent pas suivre. Donc j'ai accepté qu'on commence par nous. Par où c'était le plus urgent, le plus dur, le plus difficile. Et je dois dire que j'ai eu beaucoup, beaucoup de personnes qui ont retrouvé des choses difficiles. ça m'a élargi ma notion historique.
Difficile à un esprit logique et raisonneur de croire à la vertu du lâcher-prise. Pourtant, dans les moments de crise, de danger, où aucune issue ne semble se présenter, il est impossible de se laisser aller à d'autres pensées que celle de trouver une solution immédiate. Contrainte par le danger, je ne pouvais vivre qu'ici et maintenant, éveillée. Tel le voleur qui, à la pointe du risque, se trouve dans un état de constante attention, ainsi étais-je condamnée à la vigilance. Vigilante en temps de crise, malheureusement oublieuse en d'autres temps moins périlleux. Finalement, les difficultés des voyages, peut-être imprudemment entrepris au moment de chaleurs excessives, m'apprirent beaucoup sur la patience, sur la persévérance, l'acharnement à vaincre les obstacles, l'audace de demander, et enfin, le lâcher prise. En quoi, parce que ce que vous décrivez peut ressembler par certains aspects à ce qu'on fait par exemple dans une analyse, dans une psychanalyse, mais en quoi ce travail que vous avez fait a aussi une dimension qui dépasse la question du psychisme et donc a une efficacité spirituelle? Parce que là, vous parlez de résoudre en fait des nœuds qui sont des nœuds psychiques, qui se sont constitués par exemple dans l'enfance, mais vous semblez dire que dans votre cas, la résolution de cette difficulté psychique a eu une incidence spirituelle très profonde. Alors comment vous faites le lien?
Je vais vous dire quelque chose d'autre pour commencer. Je suis convaincue que chaque être humain a ce que j'appelle un germe d'éveil. On peut l'appeler étincelle divine. Les Tibétains disent embryon de Bouddha, ou les bouddhistes nature de Bouddha. Et je pense, moi, je l'appelle germe d'éveil. Et je suis sûre que chaque être humain a cela en lui. Mais malheureusement, on ne le sait pas. Mais que le but d'une vie, c'est de développer ce germe d'éveil parce que nous l'avons seulement en l'état latent. Nous l'avons comme quelque chose à développer. Et que si on ne fait pas un certain effort pour le développer, il ne peut pas aller vers quelque chose qui se dirige vers l'éveil, au moins. Et ce qui est assez difficile, c'est que ce germe d'éveil, Swamiji l'appelait votre vraie nature. Et elle est recouverte par des tas de couches, d'abord d'émotions, de négativité, de refus, d'actes nocifs, alors que pour que ce germe d'éveil puisse grandir, il s'agit de lui donner une nourriture spéciale de calme, de vérité et d'énergie. Et c'est à ça que sert la méditation. C'est à nourrir ce germe d'éveil. Et le lying, ce n'est pas seulement banalement un travail sur l'émotion, c'est quelque chose qui permet d'enlever les couches successives qui sont enfouies et empilées et qui nous empêchent d'avoir un contact naturel, vrai, vivant avec cette vraie nature et de ne pas se diriger vers des actes d'amour, mais souvent par la méchanceté. Parce que je dis toujours qu'il n'y a pas de personnes méchantes, il n'y a que des gens qui souffrent. Seulement, cette souffrance, elle donne des résultats parfois terribles.
Et d'ailleurs, dans les différents layings que vous faisiez, il semble, pour avoir parlé avec quelques-unes des personnes qui sont passées entre vos mains, si je puis dire, qu'elles vivaient très souvent, d'abord, dans un premier temps, beaucoup de souffrance. C'est-à-dire, ce qui ressort en premier pour...
C'est le nom. Vous savez, c'est le nom. Le refus. Excusez-moi, je vous ai coupé la parole.
Non, allez-y.
Mais vous savez que quand Swamiji m'interrogeait, dans mes layings, je ne sortais que du nom. Non, non. Et c'est ce nom que Swamiji enseigne de transformer en oui.
Ce nom, c'est le refus des obstacles de la vie, de la souffrance,
de
tout ce qui c'est dans notre croissance d'être, de tout ce qui nous a fait souffrir et dont c'est protégé et qu'on refuse.
Donc, il y a. C'est très difficile d'accepter tout ce qui est. Et c'est en particulier les souffrances, les choses difficiles, c'est difficile.
Surtout que notre mental, après, va mettre en place des stratégies pour éviter la souffrance et des stratégies de compensation, etc.
Exactement.
Donc après, il faut les défaire, toutes ces stratégies. Donc il y a tout un travail, une fois que la souffrance est sortie, que le nom est sorti, j'imagine qu'il y a tout un travail de reconstruction dans lequel vous aidez, vous accompagnez les personnes.
J'essaie de le faire en tous les cas.
Oui, pour essayer d'être dans une plus grande réalité par rapport à eux-mêmes, une plus grande adéquation avec ce qu'ils sont en profondeur et avec le réel.
Je leur apprends surtout à se respecter eux-mêmes. Et j'essaie de leur insuffler ce que leur mère souvent n'a pas pu leur donner, c'est la confiance en eux. Et comme je suis une femme et que j'ai une sorte d'énergie, j'ai un sale caractère aussi, mais j'ai beaucoup d'énergie, j'essaie toujours de transmettre la beauté de chaque être et non pas la surface qui est parfois boursouflée, parfois laide, mais que chaque être humain a un joyau en soi et que ce joyau, il est à respecter. Donc à respecter le corps dans lequel réside ce joyau, la profondeur dans laquelle réside ce joyau, qui est, Swamiji me disait, vous n'avez rien à ajouter, vous n'avez rien à créer, vous n'avez seulement à enlever des couches, et c'est à ça que sert le laïn, je fais le lien, c'est d'enlever des couches. C'est ça sa vérité, c'est ça sa noblesse, si je puis dire. Et au passage, ça nettoie les émotions. Bien sûr, et les grandes émotions, c'est toujours la peur, c'était mon cas, la culpabilité. Et ce sont les deux grandes couvertures de la vérité qui est en nous, du joyau qui est en nous. Ce sont ces peurs, cette culpabilité qui empêchent d'avoir un accès direct, un contact direct avec notre véritable nature.
Soyez vous-même, disait le sage de Shana. Qu'est-ce que moi-même? Est-ce la richesse de ma personnalité? Est-ce l'ensemble de mes goûts, mes opinions, mes choix de vie, ce que j'aime ou n'aime pas? Ou bien ce que j'ai hérité de mes parents, ce qu'ils m'ont inculqué, qu'ils m'ont appris à respecter ou à rejeter comme peu convenable à penser, à dire ou à fréquenter? Est-ce l'héritage des mois de vie fétales ou de l'enfance? À l'héritage qui peut se révéler nectar ou poison s'il est porteur de tenaces traumatismes, ajoutons les influences néfastes ou bienfaisantes d'une éventuelle vie antérieure, ou même de plusieurs. À l'instar du Bouddha, ne souhaitons pas en retrouver 500. Tant de différentes influences forment notre moi. Tant de voix contradictoires veulent s'exprimer. Tantôt l'une, tantôt l'autre, tantôt plusieurs ensembles exigent la primauté. Tantôt l'une se décide à prendre toute la place, d'où le conflit, le combat, d'où notre hésitation, notre perplexité, parfois l'angoisse de choisir, par peur de se tromper. Tant de différentes influences forment notre moi. Tant de voix contradictoires veulent s'exprimer. Tantôt l'une, tantôt l'autre, tantôt plusieurs ensembles exigent la primauté. Tantôt l'une se décide à prendre la place, d'où le conflit, le combat, d'où notre hésitation, notre perplexité, parfois l'angoisse de choisir par peur de se tromper.
Par rapport à ce que vous dites sur ces layings, donc qui sont ces séances, on pourrait dire, de thérapie existentielle, dans lesquelles la psychologie est traitée, mais avec toujours cette dimension d'un accomplissement profond de l'intériorité. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, avec l'expérience que vous avez eue en ayant fait des milliers de layings, les individus parviennent à des seuils dans lesquels s'accroît la liberté, la joie, et qui ne retombe plus dans les mécanismes du passé, et que vous pouvez sentir qu'il y a une forme de libération qui s'opère, ou est-ce que c'est toujours, finalement, on retombe toujours, ces traces restent, ces blessures restent toujours présentes jusqu'à la fin de nos jours?
La blessure est toujours présente, mais la réaction qu'elle engendre diminue. Mais je ne dis pas que c'est miraculeux. Vous savez, Swamiji disait: le lying, un tiers du travail, et le reste, c'est l'intellect, c'est-à-dire la réflexion et l'attention, pas l'attention et l'apostrophe, attention, la vigilance, disons. Parce que c'est ça qui va nourrir notre intériorité, c'est ça qui va nourrir le germe d'éveil, et quand le germe d'éveil est nourri, il nous envoie de l'amour. Et il n'en voit plus des... Et tout ce qui est cruel, méchant, désagréable en nous, peut petit à petit être remplacé par une approche d'un amour non égoïste, non égotique. Donc, je ne dis pas que c'est miraculeux, ça demande, encore une fois, un tiers du travail seulement. Et par la suite, c'est parfois des années qu'il faut pour... adoucir le côté réactionnel. Je peux vous dire que moi, je vais vous le dire, quand bébé, j'ai pleuré, pleuré, c'était un appel pour être consolé, pour être aimé, et que maintenant c'est passé, cela, l'amour absolu, j'y crois plus, à mes dépens d'ailleurs, mais il y a toujours la peur de ne pas être écouté. Et je peux vous dire que la première fois que Arnaud m'a poussé sur une estrade pour que je réponde aux personnes, je n'étais pas rassurée du tout, parce qu'il me semblait que j'allais toujours demander et qu'on ne m'écouterait pas. Donc il y avait encore, vous voyez, et pourtant il y a longtemps, il y avait encore cette peur de ne pas être entendu, peur de ne pas être écouté. Mais maintenant, je dois dire que cette peur a énormément, complètement presque, disparu, mais que je me demande toujours, est-ce que je serai écouté? Et pourtant, j'ai eu beaucoup de preuves qu'on m'écoutait, qu'on me lisait.
Mais est-ce que vous avez le sentiment que vous avez acquis à un certain moment, après avoir fait tous ces nettoyages, etc., une forme de sérénité profonde qui ne vous a plus quitté?
Je peux dire que il y avait, pendant longtemps, il y a eu sérénité et puis inquiétude. Mais depuis... on peut dire depuis que je suis rescapée de la mort, l'hôpital m'a appris ça, je lui dois ça, la patience, l'acceptation, et aussi le sentiment qu'il y avait quelque chose en moi qui ne dépendait de personne, parce que je dépends. Même maintenant, je dépends encore, il faut qu'on me soutienne pour marcher, il faut qu'on m'aide. Et j'étais quelqu'un de très indépendant, j'étais quelqu'un de très dynamique, j'allais vite. Et j'étais aussi autoritaire. Donc j'ai quand même fait 5 mois d'hôpital où j'étais amenée à prendre l'obéissance, parce que les infirmières... pas question de ne pas leur obéir. Il y en avait d'adorables, il y en avait de plus difficiles, que je comprenais d'ailleurs, parce que ça, j'ai toujours retenu cela de Swamiji, de remplacer les jugements par la compréhension. Et je comprends que ces femmes, elles avaient un travail énorme, elles n'avaient pas le temps de faire ce qu'elles faisaient convenablement, elles étaient très mal payées, et que si elles étaient irascibles ou désagréables, c'est parce qu'elles n'en pouvaient plus. Mais ça, c'était quelque chose que j'ai vraiment appris, si vous voulez savoir ce que j'ai appris. J'ai appris aussi que le calme, ça s'acquiert. La contemplation de la nature, par exemple, ça m'aide toujours beaucoup. Même si je ne peux pas rester tout le temps dehors, mais même par la fenêtre, de voir un très beau paysage, c'est quelque chose qui me nourrit, qui m'apaise et qui me permet aussi de rejoindre ce calme.
Je voudrais encore savoir ce que vous avez appris sur la nature humaine, puisque vous avez été une forme de confessionnal pendant presque 50 ans. Vous avez confessé des âmes, c'est-à-dire vous avez aidé des âmes à accoucher, vous les avez écoutées pendant des milliers d'heures. Qu'est-ce que vous avez appris d'essentiel sur la nature humaine ?
L'ambivalence, la dualité. C'est nous qui créons la dualité. C'est nous qui créons par le non, si on pouvait, dès le départ de notre vie, dire oui à ce qui est, d'instant en instant, il n'y aurait pas de problème. Mais c'est que, je crois que chaque bébé, il n'y a pas que moi, est nourri par amour. Mais dès qu'on les aime moins, ou qu'on fait quelque chose de sévère, c'est un choc terrible qui les perturbe, et ils se disent... Ma mère n'est plus une mère, vous voyez. C'est quelque chose de général, je pense, sur la nature humaine, qu'on a besoin d'être toujours dans la congratulation, si je peux employer ce mot, dans les compliments. Et c'est très différent que de donner confiance. On peut donner confiance sans faire trop de compliments à l'enfant. Parce que, vous savez, je dis toujours que l'éducation, c'est ce qu'il y a de plus difficile comme assaise. Parce qu'il faut s'éduquer soi-même. Et que l'enfant veut une mère toujours contente, toujours aimante, toujours de bonne humeur, une sainte. Et les femmes ne sont pas une sainte. Elles ont leurs souffrances, elles ont leurs difficultés et quelquefois des coups d'humeur. Et si elles ont une humeur, quelquefois, l'enfant ne peut pas comprendre que c'est pas à cause de lui. L'enfant est très égocentrique et il pense toujours, c'est à cause de moi que maman est contente, c'est à cause de moi que maman est fâchée. Et que du coup, il est déçu par sa mère à l'adolescence quand il voit que tout ce qu'on lui a dit, les parents ne le mettent pas toujours en action. Et c'est ça que j'ai beaucoup essayé de donner, c'est la confiance en ce germe de vérité qui est en nous. On ne peut pas nier qu'il y a une grande beauté en chaque être humain. Et les êtres, Swamiji me le disait, vous ne voyez que la surface, vous ne voyez que l'apparence. C'est la profondeur que vous devez voir. Et moi, j'ai appris à voir la profondeur. J'ai appris à voir qu'il n'y avait que de la souffrance.
Un jour où j'étais particulièrement triste d'être éloignée de Ma Anandamayi et que des milliers de kilomètres nous séparaient, je ressentis cette distance comme un coup de poignard au cœur. Puis il me sembla, en un éclair soudain de vérité, qu'elle et moi respirions le même air, que nous étions donc envahis, activés du même élan de vie et que malgré la distance, nous n'étions pas séparés. Il m'a paru alors faire partie d'un jeu immense, le jeu de l'énergie où tant d'êtres différents, tant de créatures multiples à l'infini peuplent cette terre. Mue par cette même énergie unique, toute puissante, et qui étant infinie se différencie à l'infini, où tant de formes nourries du même souffle d'air, animées par la même force vitale, se présentent les unes aux autres dans leur incommensurable variété tout aussi infinie. Les formes paraissent, s'usent et disparaissent. Ainsi en sera-t-il pour moi bientôt. La terre se dépeuple et se peuple à nouveau et prend de nouveaux aspects à l'infini, semble-t-il. Un infini vertigineux. Je peux vous avouer quelque chose. Un jour, Arnaud m'a dit, tu vas prendre cet homme, cette personne dans la ligne. Et moi, je trouvais qu'il transpirait la négativité, la méchanceté. J'ai dit, non, je ne peux pas. Je ne peux pas prendre cette personne, cet homme. Il m'a dit, tu le prendras. J'ai dit, bon, je vais le prendre.
Vous avez du caractère, mais vous étiez soumise parfois.
Oui. Son magie me l'a appris. Il m'a dit, vous avez à apprendre à avoir la deuxième place dans votre couple.
Le mariage, c'est déjà une éducation. Hein.
Exactement. Une confrontation. Donc je l'ai pris. Et il a commencé à dire des choses. Et puis beaucoup de souffrance. Et je l'ai fait travailler probablement plus qu'une heure. Et après, je l'ai regardé, il avait une figure d'ange, un sourire d'ange. Et j'ai vu sa vraie nature. C'est ça, il avait atteint, il s'était débarrassé des couches de cruauté, des couches de méchanceté, des couches de mauvaise humeur. Et il avait pu atteindre sa vérité. Et vous savez, cet homme, je l'ai vu 50 ans après, il a toujours de la reconnaissance pour moi.
Donc si je vous entends bien, ce que vous avez découvert, c'est que derrière toute souffrance, derrière toute méchanceté, cruauté, violence, il y a de la souffrance. Oui. Et derrière toute souffrance, il y a de la bonté.
La bonté et la beauté, c'est un joyau que nous avons en nous. Et on ne l'enseigne pas, on ne le dit pas assez. Si, on le dit dans certaines traditions, Mais on ne le dit pas suffisamment, que c'est non seulement le but d'une vie, mais c'est sa mission. C'est comme si on ne disait pas un bouton de rose, tu vas devenir une rose. Vous voyez, c'est sa nature, c'est la nature humaine de développer cette beauté qui est en soi, ce germe d'éveil, cette possibilité, cette potentialité, tout cela c'est en nous. Et la beauté du laïc, c'est d'enlever une couche, deux couches, trois couches, autant de couches qu'on peut.
Et j'ai envie de dire aussi...
Vous savez, j'ai eu beaucoup de victimes aussi.
Des victimes collatérales. Alors, vous dites, vous parlez de cette beauté, et c'est vrai qu'en vous regardant, j'ai envie de partager avec nos auditeurs l'expérience aussi de cette beauté qui émane de vous. Pendant que vous parlez, on voit se déployer ça, ce joyau auquel vous êtes arrivé. D'ailleurs, je suis émue, donc je vais essayer quand même de parler sans l'être trop. Et en vous lisant, j'ai eu cette même sensation de... Je me suis dit, si la vieillesse est arrivée à cette beauté-là, alors c'est très beau de vieillir. Vous m'avez en quelque sorte réconciliée avec ça, comme si ce temps de la vieillesse a été pour vous le temps où vous êtes le plus entré dans votre propre beauté.
C'est-à-dire, je vais vous dire que la non-activité, j'étais quelqu'un d'actif, aussi bien pour la peinture que pour les laïcs, pour beaucoup d'autres choses, et que l'interdiction, je suis restée quand même étendue sans bouger pendant 5 mois, je ne pouvais pas mettre le pied par terre, ça m'a appris l'inverse de l'impatience. Ça m'a appris la patience, mais ça m'a appris aussi que la lenteur, c'était une façon de pouvoir vivre, agir, sentir d'une façon beaucoup plus subtile, beaucoup plus intériorisée. Pour ça, il faut de la lenteur. Et j'étais probablement quelqu'un de très actif, sauf par moments où je peignais ou où je contemplais la nature. Mais autrement, j'avais beaucoup d'énergie, beaucoup de rapidité. Et c'est ça ce que, disons, l'immobilité, la non-possibilité de répondre à des exigences que je prenais pour quotidiennes et toujours répondre, donner, je ne pouvais pas avoir accès à cette sorte de lenteur, profondeur qui permet aussi aux germes d'éveil de grandir. Donc cette lenteur, ça m'a amené à, je ne dirais pas la sérénité, c'est un mot trop flatteur, mais une tranquillité intérieure qui, quelquefois, je m'impatiente, parce que je trouve que ça ne va pas assez vite, ma guérison, mais il s'agit ou de se laisser mourir, ou de faire tout ce qu'il faut pour continuer à vivre. Et je fais tout ce qu'il faut, et la lenteur que j'ai apprise, bête, c'est pour cela que je parle de cela, cette sorte les gestes lents, du temps, beaucoup de temps, à rien faire presque, ou presque rien faire, parce que même lire commence à devenir un peu trop fatigant, surtout les petits caractères. Et disons, la non-action m'aide à rejoindre cette tranquillité intérieure. Et c'est peut-être là que je puise le plus d'énergie pour continuer à faire ce qu'il faut pour, disons, pas mourir. Shri Krishnaya Vasudevaya.
Après avoir parcouru la longue route de mon existence, il est temps d'évoquer mes impressions de ces dernières années de vie et l'état de vieillesse où je me trouve. La vieillesse a mauvaise réputation. Certains en parlent comme étant dépassés par un fardeau plus lourd que la voûte céleste portée par Atlas sur ses épaules. Pourtant, combien de souhaits sont émis afin que soit atteint un âge avancé, et que de souhaits se transforment en regrets une fois qu'il est atteint. Un dernier acte n'est-il cependant pas nécessaire à la comédie ou la tragédie de la vie humaine, comme pour les fleurs, les plantes, les arbres ? Le refuser revient à se mettre en opposition stérile avec les lois qui régissent l'existence sur cette terre. Quelles que soient les circonstances familiales et les ressources financières du vieillage, c'est la manière dont on a vécu sa vie entière qui permettra de l'affronter avec sérénité, si on a la conviction d'avoir fait ce que l'on avait à faire et d'avoir dirigé sa vie du mieux possible. Éviter de ressasser, de se complaire dans les regrets, les frustrations éventuelles, les mauvais souvenirs d'erreurs inévitables. Tout cela fait partie des éléments qui ouvrent la porte à une vieillesse paisible et vécue dans une dimension juste. Vous n'avez pas peur de la mort?
Quand j'ai eu 25 ans, je me souviens, j'étais au théâtre avec ma sœur, je lui ai pris le bras, je lui ai dit, je vais avoir 25 ans. Et j'étais sûre que j'allais mourir. Je pense que c'était la vie antérieure qui était là et qui se manifestait de cette façon. Mais je dois dire aussi que ce qui... Je dois dire d'abord que je ne sais pas comment je serai quand je serai juste devant la mort, à l'agonie. Je ne sais pas quelle sera mon attitude, quelle sera ma pensée, quelle sera ma peur ou ma tranquillité. Je ne le sais pas. Mais pour le moment, je n'ai peur que d'une chose, c'est de devenir impotente. J'aime bien mourir avant. Et ce qui m'aide à ne pas avoir peur de la mort, c'est cette expérience dont je vous ai parlé, que j'ai eue auprès de Manon Damahi, où j'ai connu un état où aucun, ni l'ouïe, ni les yeux, ni la parole n'existait. Mais j'avais quand même conscience de quelque chose. Et c'est ça qui m'aide à avoir moins peur. Je pense que ce vide qui n'est pas néant, c'est une hyper-conscience nouvelle que nous ignorons tous et que j'ignorais. Mais du fait que j'ai eu cette expérience et que ce vide m'a montré qu'il y a un noyau de conscience, puisque je m'en suis souvenu. Sans ça, je n'aurais pas pu m'en souvenir s'il n'y avait pas eu le noyau de conscience. Donc ce noyau de conscience, en tous les cas, au moment de mourir, il sera peut-être là pour me permettre de franchir l'étape.
Et est-ce que vous avez le souhait de ne plus revenir sur Terre, puisque j'imagine que vous croyez à la transmigration? Est-ce que vous dites finalement, ce serait bien que j'ai atteint un état où je n'ai plus à revenir sur Terre? Ou est-ce que l'idée de revenir sur Terre vous fait plutôt plaisir?
C'est pas que ça me fait plaisir, mais je crois que j'y suis soumise. Je ne suis pas assez de haut niveau pour... Je l'espère. Parce que maintenant, je sais
que... Qu'est-ce que vous espérez?
J'espère, disons, le non-revenir.
La libération définitive,
oui,
comme disent les bouddhistes.
Oui, mais je n'y crois pas. Je n'ai pas l'audace d'y croire. Rama,
Même si quelques remous superficiels viennent froisser la luminosité de leurs eaux transparentes, l'apaisement se recrée pour dissoudre les reflets importuns. C'est pourquoi ce qui demeure des jours qui me sont destinés, je le considère avec gravité et gratitude, mais sans inquiétude, comme un cadeau que je dois respecter. Il m'offre la possibilité d'aller jusqu'au bout de mon chemin d'évolution. Et grâce à l'ampleur des aides prodiguées par les êtres de haut niveau qui m'ont enseigné, de pouvoir transmettre à ceux qui le souhaitent tout ce qui m'a été transmis et qui est resté ancré dans ma mémoire. Ainsi, je ne désire ni une fin prochaine ni un éventuel prolongement de mes jours. Mais j'accepte de jouer loyalement le dernier acte du long théâtre de ma vie, où j'ai fait le plein d'actions, de sensations, le plein de donner, le plein d'aimer, le plein de recevoir. Que ma façon de me comporter et mon équilibre me permettent d'attendre paisiblement le moment où je quitterai cette existence. Tel est aujourd'hui mon souhait.
Merci à Denise Desjardins de nous avoir reçus à Hauteville. Je rappelle le titre de son ouvrage autobiographique « Contre vents et années » aux éditions La Table Ronde. C'était Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélian Var. La semaine prochaine, nous parlerons de la lucidité avec Ilios Kotsou. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours. Très bon dimanche à tous.